Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Shvurot, page 4, Daf Dalet. Bonne écoute et bon limoud.
Enochayav Elahat, il ne sera coupable d'avoir transgressé qu'une seule interdiction. En effet, le deuxième serment ne prend pas effet, parce qu'après le premier serment, il a l'obligation de manger cette miche de pain. Le deuxième serment est considéré comme étant un serment d'accomplir une mitzvah. Celui-ci ne prend pas effet, comme il est enseigné dans la Mishnah plus loin d'Af Kaf Zayin. Finalement, nous considérons que cette personne n'a transgressé qu'un seul serment. Alors, la Mishnah conclut en disant « Zuhi Shvuat Bitui » c'est cela, le serment où une personne prononce un engagement « Shechayavin Alzdonah Makot » pour laquelle on est sanctionné à la peine de la flagellation. Si ce serment est transgressé volontairement, « Valshik Gata » Korban Olev Yored, et si ce serment est transgressé involontairement, il faudra offrir un korban selon la situation financière. En l'agmara déduit, Zuhi Dechayavin Alzona Makot, c'est seulement pour ce cas qu'on est condamné à la flagellation si on transgresse le serment volontairement. Aval Ochal Veloachal, mais s'il jure je mangerai cette miche de pain et il ne l'a pas mangée, Lolake, il ne sera pas condamné à la flagellation. On pourra dire donc que c'est sur cette Mishnah que Rabbi Yochanan s'est basé pour dire qu'il n'est pas condamné à la flagellation dans ce cas. Voir le Tosfot. La Gemara demande, Mirde Haistama ve Haistama, puisque la première Mishnah, donc de cette Maserhet, est une Mishnah enseignée sans auteur, et cette Mishnah qui a été enseignée plus loin, Dav Kavzayin Amudvet, est aussi une Mishnah qui est enseignée sans auteur, Mai Chazi David ki Haistama, pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan suit l'opinion de la Mishnah citée sans auteur, qui a été enseignée plus loin, Dav Kavzayin, Le David ki Haistama? Rabbi Yochanan aurait dû suivre l'autre Mishnah qui est enseignée sans auteur au début de la Masechet. Alors la Gemara demande, Vilitamer, et selon toi, qui comprend que ces deux Mishnayot se contredisent, Rabbi Goufé, Hechi Satamlan Hacha Hachi Vehacha Hachi, Rabbi lui-même, comment a-t-il enseigné cette Mishnah sans auteur selon une opinion, et plus loin Dav Kaf Zayin a enseigné une Mishnah sans auteur selon une opinion divergente? Et là, plutôt c'est ainsi que nous dirons, Meikara Savar, au début, Rabbi pensait Lav Shen Bo Maaseh Lo Kin Alav, qu'un commandement négatif qui a été transgressé sans action, le contrevenant est sanctionné par la flagellation, Vesatma, et il a enseigné notre Mishnah, donc au début de la Masechet, sans auteur, selon son opinion, Vehadar Savar, puis après il a changé d'avis, et il pensait En Lo Kin Alav, que pour un commandement négatif transgressé sans action, on n'est pas condamné à la flagellation, Vesatma, et il a enseigné une Mishnah en ce sens, sans auteur, plus loin d'Af Kaf Zayin. Et puisque c'est cela son opinion finale, c'est sur celle-ci que Rabbi Yochanan s'est basé. Au Mishnah Lozaza Mimkoma, mais après avoir changé d'avis, la première Mishnah n'a pas bougé de sa place. Autrement dit, puisque les élèves avaient déjà appris cette Mishnah, il était difficile de l'effacer de leur mémoire. Rabbi a donc préféré enseigner une nouvelle Mishnah, selon l'opinion divergente, et il s'est appuyé sur le fait qu'on comprendra que puisqu'il y a une contradiction entre les Mishnayot, c'est la dernière Mishnah qui exprime son opinion finale. Nous avons fini ici le shiur de Shvuot Daf Gimel. Nous commençons le shiur de Shvuot Daf Dalet à la 11e ligne du haut de la page. La Mishnah a dressé une liste de 4 lois dont les cas sont 2 qui font 4. En la Gemara s'est demandé quel était l'auteur de la Mishnah puisque cette Mishnah ne pouvait pas suivre l'opinion de Rabbi Akiva. En effet, selon Rabbi Akiva, l'homme impur qui serait rentré dans le Beth Amikdash ou qui aurait consommé de la viande d'un korban n'aura l'obligation d'offrir un korban selon sa situation financière uniquement dans le cas où il a oublié qu'il était impur lorsqu'il a commis ce péché. Mais s'il a oublié qu'il s'agissait de la viande d'un korban ou du Beth Amikdash, il n'aura pas l'obligation d'offrir un korban. Finalement, selon lui, il existe uniquement 2 cas et non pas 4. Notre Mishnah ne peut pas suivre non plus l'opinion de Rabbi Ishmael, parce que selon lui, la personne qui a transgressé son serment n'aura l'obligation d'offrir un korban selon sa situation financière uniquement s'il s'agissait d'un serment dans le futur. C'est-à-dire uniquement dans le cas où il s'était engagé par un serment de faire ou de ne pas faire une certaine action et il a transgressé son serment. Mais s'il s'agissait d'un serment sur le passé, c'est-à-dire il a juré avoir fait ou ne pas avoir fait une certaine action puis il s'est avéré que c'était un mensonge, il n'a pas l'obligation d'offrir un korban. Finalement, pour les serments, il n'existe que 2 cas et non pas 4. La Gemara a répondu que notre Mishnah pouvait suivre l'opinion de Rabbi Ishmael, Mais il ne s'agit pas de cas où l'interdiction a été transgressée par inadvertance pour avoir l'obligation d'offrir un korban, mais plutôt la Mishnah parle de cas où ces interdictions ont été transgressées d'une manière délibérée pour être sanctionnées à la peine de la flagellation. Et selon lui donc, il y aurait deux cas qui font quatre pour les quatre lois enseignées par la Mishnah. Alors la Gemara demande, Bemayu Kimta, comment as-tu établi la Mishnah, comment l'as-tu interprétée? Qui Rabbi Ishmael ou le Malkout? Tu as donc dit que notre Mishnah suit l'opinion de Rabbi Ishmael, et il s'agit de cas où les interdictions ont été transgressées d'une manière délibérée pour être sanctionnées à la peine de la flagellation. Si c'est ainsi, Marot Negaim Mai Malkutika, pour les plaies de la lèpre, où y a-t-il une interdiction sanctionnée par la peine de la flagellation? L'Agma répond, Bekotzetz Beharto. Il existe une peine de flagellation pour celui qui coupe l'endroit atteint par la plaie de la lèpre pour l'éliminer. En effet, le pasouk dit dans Dvarim Kavdalet, Hishamer benega tsarat, etc. Fais attention à la plaie de la lèpre. De là, nous apprenons qu'il est interdit d'éliminer la plaie en la coupant. Ou que de Rabbi Avin à Rabbi Ila, et nous suivons l'opinion de Rabbi Avin au nom de Rabbi Ila, d'Amar Rabbi Avin à Rabbi Ila. Kol makom shenemar, dans tout endroit où la Torah s'exprime en disant Hishamer, fais attention ou méfie-toi, peine de peur que Ve'al ne fait pas telle chose. Eno ela lotaase, il ne s'agit que d'un commandement négatif, donc sanctionné par la flagellation. Alors, la Mishnah nous enseignerait donc que les aspects de la lèpre qu'il est interdit d'éliminer et dont l'interdiction est sanctionnée par la peine de flagellation sont au nombre de deux qui font quatre. La Gemara demande, Yitziot Shabbat, les cas qui représentent l'interdiction de déplacer un objet d'un domaine à l'autre, le Shabbat, Mai Malkutika, quelle peine de flagellation existe? Puisque Lav Shenitan Lazarat Mitat Bedinhu, il s'agit d'un commandement négatif sanctionné par la peine de mort. V'chol Lav Shenitan Lazarat Mitat Bedin, et tout commandement négatif sanctionné par la peine de mort, En Lokin Alav, celui qui le transgresse ne sera pas condamné à la flagellation, même si les témoins l'ont averti avant de commettre ce crime, qu'il serait condamné à la flagellation. Finalement, on ne pourra pas dire que la Mishnah parle de cas sanctionnés par la peine de flagellation. L'Agma répond, Mishum Hachi Kamokmina Ki Rabbi Ishmael. C'est pour cela que nous avons établi notre Mishnah selon l'opinion de Rabbi Ishmael, d'Amar, parce que lui dit, Lav Shinitan Azarat Mitat Bedin Lokin Alav. Un commandement négatif sanctionné par la peine de mort, celui qui le transgresse, peut être condamné à la flagellation si les témoins l'avertissent auparavant qu'il serait condamné à cette peine de flagellation. La Gemara demande, Halavachi, si ce n'était pas cela, que c'est spécialement Rabbi Ishmael qui pense qu'un commandement négatif sanctionné par la peine de mort peut être aussi puni par la flagellation, mais sans cela, Kaima ki Rabbi Akiva, notre Mishnah aurait pu être établi selon l'opinion de Rabbi Akiva. Pourtant, Kashia Yediot, pourtant nous avons la question concernant la prise de conscience de l'impureté. En effet, comme nous l'avons vu précédemment, selon l'opinion de Rabbi Akiva, celui qui est rentré dans le Beit HaMikdash ou a consommé de la viande d'un korban tout en étant impur, parce qu'il a oublié qu'il s'agissait du Beit HaMikdash ou de la viande d'un korban, sera dispensé de l'offrande du korban. Finalement, selon l'opinion de Rabbi Akiva, nous n'avons pas deux cas qui font quatre. Ma répond, Lava Mart, Rabbi Ishmael Hi ou le Malkout, n'est-ce pas que tu as dit que notre Mishnah suivrait l'opinion de Rabbi Ishmael? Et en fait, dans la Mishnah, il s'agit de cas sanctionnés par la flagellation, c'est-à-dire dans le cas où ces péchés ont été commis volontairement. Si c'est ainsi, Rabbi Akiva Nami, nous pouvons établir aussi notre Mishnah selon l'opinion de Rabbi Akiva, où le Malkout est pour la peine de la flagellation. Autrement dit, selon lui, si ce n'était le fait qu'il pense qu'un commandement négatif sanctionné par la peine de mort ne peut pas être puni par la flagellation, on pourrait aussi interpréter la Mishnah de la même manière et de dire qu'il s'agit d'un cas où ces péchés ont été commis volontairement et ils seront donc sanctionnés par la flagellation. D'ailleurs, on aurait préféré établir la Mishnah selon l'opinion de Rabbi Akiva, puisqu'en général, comme c'est expliqué dans Sanhedrin d'Apevav, les Mishnayot suivent l'opinion de Rabbi Akiva. En Lagmar demande, Yachi, si c'est ainsi, si nous disons que toute la Mishnah parle de cas où les péchés ont été commis volontairement et sont sanctionnés par la flagellation, voir le Torah Traim. Yediot, pourquoi est-ce que la Mishnah s'est exprimée en parlant de prise de conscience, de l'impureté, ce qui laisse sous-entendre qu'il y a eu un oubli, donc ce péché a été commis par inadvertance? Hatraot mi ba'ele, la Mishnah aurait dû s'exprimer en parlant d'avertissement concernant l'impureté, puisque nous parlons de péché commis volontairement, Cette personne a donc été avertie par les témoins pour être condamnée à la flagellation. L'agma répond, si c'est la seule question que tu as, halokashia, ceci n'est pas une question. Tane yediot de'atraot enseigne dans la Mishnah la prise de conscience de l'impureté causée par l'avertissement. C'est-à-dire, comme l'explique le Ritva, lorsque la Mishnah emploie le terme de yediot, nous ne dirons pas que la Mishnah veut sous-entendre un oubli, mais plutôt que la personne savait qu'il était impur et qu'il commettait un péché, parce que justement, il a été averti par les témoins. En l'agma demande, Yahi, si c'est ainsi que nous interprétons la Mishnah, Shtaim Shein Arba, y a-t-il deux cas qui font quatre? Tartehu Davian, il n'y a que deux cas de l'impureté. En effet, celui qui pénètre dans le Beth Amikdash tout en étant impur, et celui qui consomme de la viande d'un corban tout en étant impur. Veut tout, et en plus, lorsque la Mishnah explique par la suite, Etchieshba Yedia Bitrila, dans le cas où il savait au départ qu'il était impur, Vidya Basov, il a pris conscience par la suite qu'il a transgressé une interdiction, Vehelem Bentaim, il y a eu un oubli entre les deux lorsqu'il a commis ce péché. Alors la question se pose, Ha'alama le Malkut, Mayavidite, qu'a-t-on besoin d'un oubli pour être condamné à la flagellation? Puisqu'au contraire, il doit être conscient de commettre un péché pour être condamné à la flagellation. Vetou, et en plus, lorsque la Mishnah conclut, Ha'reze Be'olev Yored, il devra offrir un corban selon sa situation financière. La Mishnah parle donc clairement d'un péché pour lequel il doit offrir un corban, donc qu'il a commis par inadvertance, et non pas d'un péché qu'il a commis volontairement, pour lequel il est sanctionné à la flagellation. En fait, comme l'explique le Pnei Yoshua, ces questions auraient pu être répondues, mais l'interprétation de la Mishnah aurait été difficilement acceptable. Alors c'est pour cela que la Gemara dit, et là, Rav Yosef, plutôt Rav Yosef a dit, Rebihi, l'auteur de la Mishnah, est Rebi. Benassivla Aliba de Tanae, et les cas qu'il a enseignés dépendent d'une discussion entre des Tanaïm. C'est-à-dire, Bidiot, concernant la prise de conscience de l'impureté, Nassivla, qu'est Rabbi Ishmael, il a suivi l'opinion de Rabbi Ishmael, selon laquelle, lorsqu'il a oublié qu'il s'agissait du Beth Amikdash ou de la viande d'un corban, il doit tout de même offrir un corban selon sa situation financière. Beshuvot, dans le cas concernant les serments, Nassivla, qu'est Rabbi Akiva, il a suivi l'opinion de Rabbi Akiva, selon laquelle il faudra offrir un corban selon sa situation financière, même lorsqu'il s'agit d'un serment dans le passé, c'est-à-dire dans le cas où il a juré qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait une certaine action, parce qu'il avait oublié la vérité. Amar Ravashi, Amrita Lishmata Kameh de Rav Kahana. J'ai répété cette interprétation de Rav Yosef devant Rav Kahana. Ve Amarli, et Rav Kahana m'a dit là-dessus, Lotema Rebi Nasivla Aliba de Tanae, ne dit pas que Rebi a choisi des cas qui dépendent de discussions entre des Tanaïm, Vele Losvirele, et lui ne pense pas comme ces Tanaïm dont il a choisi de suivre l'opinion. Et là, plutôt, Rebi Tameh de Nafsheh Mefaresh. Rebi, en fait, a suivi sa propre opinion. De Tania, parce qu'il a été enseigné dans une Braïta. Minain Sheno Chayav, d'où sait-on qu'il n'a l'obligation d'offrir un korban? Et là, Al Sheyeshba Yedia Bitrila, que dans le cas où il a eu conscience au début, donc il était impur, et qu'il s'agissait du Beth Amikdash, Vidya Basov, il a pris conscience de son erreur, Behelem Ben Taïm, il y a eu un oubli entre-temps lorsqu'il a commis son péché. La Braïta répond, Talmud Lomar, c'est pour cela que le Passouk nous enseigne dans Vaikrahe concernant celui qui rentrait par inadvertance dans le Beth Amikdash alors qu'il était impur, Veneelam, Veneelam, Shne Peamim, le Passouk répète à deux reprises le terme de Veneelam, il a oublié. En effet, le Passouk dit d'abord Veneelam, Mimenu, Vehutame, Vehashem, et il l'a oublié, et il était en fait impur, et il a fauté. Et le deuxième pasouk dit, Venelam mimenu vehuyada vehashem, et il a oublié, puis il s'est rendu compte qu'il a fauté. Cette répétition est superflue. Alors comme l'explique le Pnei Yoshua, selon l'interprétation de Rashi, le premier pasouk qui dit, il a oublié, et il était impur, nous enseigne qu'il ne devra offrir de korban que s'il a oublié qu'il était impur, mais s'il a oublié qu'il s'agissait du Beth Amikdash ou de la viande d'un korban, il n'aura pas l'obligation d'offrir un korban. Maintenant, si le deuxième Venelam venait nous enseigner que même s'il a oublié qu'il s'agissait du Beth Amikdash ou de la viande d'un korban, il devra aussi offrir un korban, le pasouk n'avait pas besoin de le dire, il aurait pu simplement omettre les termes de Vehutame, il était impur, et on aurait compris que pour n'importe quel oubli, il doit offrir le korban. Alors le deuxième Venelam est en plus, et on insérera les termes de Vehuyada, et il savait, avant les termes de Venelam, nous lirons donc Vehuyada Venelam. Nous apprenons donc de là qu'il sera impératif qu'il sache auparavant qu'il était impur et qu'il s'agissait du Bétamigdash ou de la viande d'un corban, puis après il l'a oublié qu'il était impur et il a fauté. Mais s'il ne savait pas auparavant qu'il était impur ou qu'il s'agissait du Bétamigdash, il n'aura pas l'obligation d'offrir le corban. Il est évident aussi que tant qu'il ne sait pas qu'il a fauté, il ne devra pas offrir de corban. Nous n'avons donc pas besoin de pasouk particulier pour nous enseigner qu'il doit savoir qu'il a fauté pour offrir le corban. Du vrai Rabbi Akiva, ce sont les paroles de Rabbi Akiva. Rabbi Omer, et notre Tsarir, comme l'explique le Maharsha, il n'est pas nécessaire de déformer le pasouk de cette manière. Plutôt, le pasouk sera interprété de la manière suivante. Haréu Omer, voici que le pasouk dit.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf d'Alet Amud Bet. Vene'elam, il a oublié. Miklal de'ada, cela sous-entend qu'il savait auparavant. La Gemara expliquera plus loin Daf et Amud Alef. Vehu yada, lorsque le pasouk conclut et il a pris conscience qu'il a fauté. Harekan shtei yediot, nous avons donc deux prises de conscience. Une avant d'avoir fauté et une après avoir fauté. Imken ma talmud lomar vene'elam vene'elam. Si c'est ainsi, pourquoi est-ce que le pasouk emploie le terme de vene'elam, il a oublié à deux reprises? Rabbi répond, le chayev al he'elem tuma va al he'elem migdash. C'est pour le rendre coupable, donc pour rendre obligatoire l'offrande du korban pour l'oubli de son état d'impureté ou pour l'oubli qu'il s'agissait du bétamigdash ou de la viande d'un korban. Comme le précise le Pnei Yoshua, Rabbi emploie les termes de vehutame pour apprendre autre chose. En tout cas, nous voyons dans cette braïta que Rabbi est clairement en désaccord avec Rabbi Akiva et il suit l'opinion de Rabbi Ishmael. En effet, selon lui, l'offrande du korban sera obligatoire soit pour l'oubli de l'état d'impureté, soit pour l'oubli du fait qu'il s'agissait du bétamigdash ou de la viande d'un korban. La Gemara demande, Ashkechan beidiot, nous avons trouvé à propos de la prise de conscience de l'impureté de Hitler Tamé de Nafshe, qu'il a sa propre opinion et il suit l'opinion de Rabbi Ishmael comme nous l'avons vu. Shvuot de l'etle tamé de nafshe. Mais concernant les serments, où il n'y a pas de braïta qui nous enseigne son opinion, menalan, d'où sait-on qu'il est en désaccord avec Rabbi Ishmael et que selon lui, l'offrande du korban est obligatoire même pour un serment dans le passé? La Gemara répond, svarahu, nous l'apprenons d'un raisonnement logique. En effet, Rabbi Akiva maitama kamechayav leshavar. Pourquoi est-ce que Rabbi Akiva rend l'offrande du korban obligatoire pour le serment au passé? C'est-à-dire dans le cas où il a juré qu'il a fait ou n'a pas fait une action, puis il s'est avéré que c'était un mensonge par erreur. La Gemara répond, Dedarij ribouye umeute. C'est parce qu'il interprète les psukim concernant les serments comme étant une suite d'inclusion et d'exclusion. En effet, selon Rabbi Akiva, lorsque le pasuk dit Nefesh kiti shava, etc., lorsqu'une personne jurera, il s'agit d'une inclusion, puisque le pasuk ne précise pas de quel type de serment il s'agit. Lorsque le pasouk continue et dit « Lehara oleetiv » pour faire du mal ou pour faire du bien, il s'agit d'une exclusion parce que là, pas tout type de serment n'est inclus. Lorsque le pasouk conclut en disant « Le chol asher ivate ha'adam bishvoa » pour tout ce qu'un homme exprime par serment, il s'agit à nouveau d'une inclusion. Nous avons donc une suite d'inclusion, exclusion et inclusion. Dans ce cas, tout sera inclus. Il n'y aura qu'une seule chose qui sera exclue. Comme la Gemara l'explique plus loin d'Afkavav, sera exclu le serment qui vient annuler l'accomplissement d'une mitzvah. Alors finalement, puisque tout est inclus, nous inclurons aussi le serment sur le passé. Tandis que Rabbi Ishmael interprète les psukim sous forme de généralité suivie d'un détail, suivi à nouveau par une généralité, dans ce cas, nous disons que le pasouk vient inclure tout ce qui ressemble au détail. Nous pourrons inclure donc les serments qui ne sont pas particulièrement destinés à faire du mal ou du bien, mais on ne pourra pas inclure les serments sur le passé qui ne ressemblent pas aux détails. Puisque c'est ainsi, Rabbi Nami Darish Ribouye Umiute. Nous savons que Rabbi aussi interprète les psukim sous forme d'inclusion et d'exclusion. De Tanya, parce qu'il a été enseigné dans une braïta. Rabbi Omer, Bakol Podin Bechor Adam. N'importe quoi peut être utilisé pour le rachat du premier-né de l'homme. Chutz minashtarot, à part un document, c'est-à-dire à part la reconnaissance de dette. C'est-à-dire, si le père d'un premier-né a une reconnaissance de dette comme quoi une personne lui doit la somme de 5 sela, en remettant cette reconnaissance de dette au Kohen, son premier-né n'est pas considéré comme étant racheté. Verabanan amre, bakol podim bechor adam, avec n'importe quoi on peut racheter le premier-né de l'homme, chutz meavadim ushtarot vekarkaot, à part les esclaves, les documents et les terrains. C'est-à-dire, on ne pourra pas donner au Cohen ni un esclave, ni un terrain, ni une reconnaissance de dette pour racheter le premier-né. Alors la Gemara demande, Maïtama de Rebi, quelle est la raison de Rebi? La Gemara répond, Darij Ribouye ou Meouté. Il interprète les psukim concernant le rachat du premier-né sous forme d'inclusion et d'exclusion. En effet, lorsque le pasouk dit dans Bamidbar Yutret concernant le rachat du premier-né, Uvduyav mi ben Chodesh, etc., et son rachat à partir de l'âge de un mois. En plus que le pasouk ne précise pas la nature du rachat, riba, il s'agit d'une inclusion. Lorsque le pasouk continue et dit Berkecha kesef hameshet shekalim, avec la valeur de 5 shekels d'argent, miet, il s'agit d'une exclusion, puisque là, la Torah précise la nature du rachat. Tifde, lorsque le pasouk dit tu rachèteras, en effet, le début du pasouk que nous avons mentionné précédemment dit la chose suivante, Ufduyav mi ben chodesh tifde, et son rachat, à partir de l'âge de un mois, tu le rachèteras. Ce terme de tifde, chazar veriba, est une inclusion supplémentaire, parce que selon lui, lorsque nous avons deux inclusions qui se suivent, puis suivies par une exclusion, nous interprétons ce pasouk comme forme de l'ensemble suivant, inclusion, exclusion et inclusion. Donc finalement, riba ou miet veriba, le pasouk a inclus, puis l'a exclu, puis l'a inclus à nouveau, riba hakol, tout sera donc inclus. Maï riba, qu'est-ce que le pasouk vient inclure? Kol mile, toute chose. On pourra donc employer n'importe quoi pour acheter le premier-né. Ou maï miet, qu'est-ce que le pasouk vient inclure puisqu'il faudra quand même exclure une chose? Miet shtarot, le pasouk a exclu les documents, c'est-à-dire les reconnaissances de dette, comme nous l'avons expliqué. Verabanan, tandis que les chachamim d'arché klale ou praté, interprètent le pasouk sous forme de généralité et de détail. Selon eux donc, ouvduyav mi ben chodesh, et son rachat à partir de l'âge de un mois, klal, il s'agit d'une généralité, puisque le pasouk ne précise pas la nature du rachat. Be'erkecha kesef chameshet shkalim, avec la valeur de 5 shekels d'argent, prat, il s'agit d'un détail, puisque le pasouk précise ici la nature du rachat. Tifde, lorsque le pasouk a dit précédemment, tu rachèteras. Chazar ve'kalal, le pasouk a généralisé à nouveau. Selon eux, lorsque nous voyons dans le pasouk deux généralités qui se suivent, suivies d'un détail, nous interprétons le pasouk sous forme de l'ensemble suivant, généralité, détail, généralité. Donc finalement, klal ou prat ou klal, nous avons une généralité suivie d'un détail, suivie d'une généralité. Iatadan ela kena prat. Tu ne pourras apprendre de ce pasouk que ce qui ressemble au détail. Autrement dit, cet ensemble nous enseigne qu'on pourra inclure et étendre la généralité qu'à ce qui ressemble au détail. Nous dirons donc, maha prat me fourage davar metaltel vegufo mamon, de la même manière que le détail est clairement quelque chose de mobile et qui a une valeur en soi. Af kol davar hamitaltel vegufamamon, nous pourrons inclure toute chose de mobile et qui a une valeur propre. Yatsu karkaot shena metaltelim, on exclura les terrains qui ne sont pas mobiles. Yatsu avadim shiukshu le karkaot, on exclura les esclaves qui ont été comparés au terrain. En effet, le pasuk dit d'Ovaikra Kafé concernant les esclaves, vitnachaltem otam, etc. Vous les transmettrez en héritage à vos enfants comme votre patrimoine. Nous apprenons de là que les esclaves sont comparés au terrain. Yatsu shtarot, on exclura aussi les documents, donc les reconnaissances de dette. Afalpi shemitaltelim, parce que bien qu'ils soient mobiles, engufan mamon, ils n'ont pas de valeur propre. Finalement, selon les chachamim, on ne pourra pas employer pour le rachat du premier-né ni les terrains, ni les esclaves, ni les documents. En tout cas, nous voyons dans cette braïta que selon Rebbi, nous interprétons les psukim sous forme d'inclusion et d'exclusion et non pas sous forme de généralité et de détail. Nous voyons donc que l'opinion de Rebbi est la même que celle de Rabbi Akiva et Rebbi interprétera donc les psukim concernant les serments de la même manière que l'a fait Rabbi Akiva et selon lui, les serments sur le passé seront aussi inclus et nécessiteront l'offrande d'un korban. Amar le, Ravina le Amemar, Ravina a posé la question suivante à Amemar. Rebi, Darish, Ribouye ou Meouté, est-ce que Rebi interprète les psukim sous forme d'inclusion et d'exclusion? Behar Rebi, Klale ou Praté Darish. Pourtant, Rebi interprète les psukim sous forme de généralité et de détail. Détania, parce qu'il a été enseigné dans une braïta concernant l'esclave juif. Il s'agit notamment d'un voleur qui a été vendu par le tribunal pour rembourser son vol. Il n'est vendu que pour 6 ans. Si, au bout de 6 ans, il refuse de quitter son maître, on lui poinçonnera son oreille droite devant le tribunal. Alors, la Braïta interprète le pasouk dans Dvarim Tetvav concernant le poinçonnement de l'oreille de l'esclave. Le pasouk dit Martzea, le poinçon. C'est donc le poinçon qui sera utilisé pour poinçonner l'oreille de l'esclave. La Braïta demande Eniela Martzea. Nous n'apprenons de ce pasouk que le fait qu'il est possible d'utiliser un poinçon. Minay le rabot hasol veasira. D'où apprenons que nous pouvons inclure aussi une écharde ou une épine, hamachat veamakdeach, ou une aiguille ou un forêt veamartev, et le stylet. Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasouk nous enseigne velakarta, et tu prendras kol davar shenilkar bayad. Nous apprenons de là qu'on pourra employer toute chose qui se prend dans la main. Du vrai Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, ce sont les paroles de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Rabbi Omer, Martzea, lorsque le pasouk emploie le terme de Martzea, poinçon, nous dirons la chose suivante. Ma Martzea miyuchad shel matechet, de la même manière que le poinçon a cela de particulier, qu'il s'agit d'un objet en métal, afkol shel matechet, nous dirons que tout objet pointu en métal pourra être employé pour poinçonner l'oreille de l'esclave. Selon lui, donc, une écharde ou une épine ne pourront pas être utilisées pour cela. Vamrinan, et les chachamim ont dit là-dessus, Vemaikamiflage, en quoi discutent Rebbi et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda? Les chachamim ont répondu là-dessus, Rebbi darish klale uprate. Rebbi interprète les psukim sous forme de généralité et de détails. En effet, selon lui, velakarta, tu prendras donc n'importe quoi. Il s'agit d'une généralité. Martzea, le poinçon, il s'agit d'un détail. Lorsque le pasouk conclut en disant venatata beozno, et tu le placeras dans son oreille, il s'agit à nouveau d'une généralité. Nous pourrons donc étendre la généralité qu'à ce qui ressemble au détail. Donc, puisque le détail est un objet pointu en métal, nous apprenons de là que n'importe quel objet pointu en métal pourra être employé pour poinçonner l'oreille de l'esclave. Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda darish, tandis que Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda interprète le...
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.